Radio Okapi.
Le journal Jacques-Yves Molima Aouta.
Rencontre Félix-Antoine Tshisekedi et les évêques de la Cinco hier ici à Kinshasa. À l'occasion, les prélats catholiques ont remis au chef de l'État un mémo avec une série de recommandations sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, sur l'enseignement et sur le processus électoral. Et puis 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. La section affaires politiques de la MONUSCO a réuni un groupe de femmes leaders de Bukavu jeudi. L'objectif principal, sensibiliser à la problématique des violences faites aux femmes dans toute la province du Sud Kivu. Enfin, nous recevons dans cette édition Jean-Malice Mungala, coordonnateur de la LISADEL, Ligue de la Zone Afrique pour le droit des enfants et élèves, Kassai Central. Sa structure a répertorié plus ou moins 624 cas de viol sur mineurs dans trois zones de santé dans cette province. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Les évêques ont remis au chef de l'État un mémo avec une série de recommandations sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, sur l'enseignement et sur le processus électoral. C'était lors de l'audience que Félix-Antoine Tshisekedi a accordé hier à Kinshasa à 18 évêques membres du comité permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CINCO. D'après Monseigneur Marcel Outembi, président de la CINCO, sur le plan sécuritaire par exemple, les évêques recommandent au président de la République d'envisager une qualification de l'état de siège. D'autres aspects avec vous, Billy Ivalutumba.
Estimant qu'il est impérieux de tous s'unir, aller de l'avant pour l'intérêt de la nation, Monseigneur Marcel Outembi, devant la presse, affirme qu'il est temps, pour être réaliste, mener des réflexions pour fédérer, mutualiser les forces afin d'assurer le bien-être du peuple congolais. Ainsi donc, concernant le processus électoral.
Ce processus électoral nous engage l'Église, l'État et d'autres partenaires, comme par exemple l'éducation civique et électorale, la mission d'observation électorale qui viendra. C'est cela le point autour desquels nous pouvons fédérer pour aller de l'avant, choisir des personnes idoines qui seront à mesure de répondre aux différents problèmes du peuple congolais.
L'Église catholique comme partenaire de l'État congolais en matière d'éducation, la CENCO propose également dans le mémo quelques pistes pour la bonne marche de l'enseignement. Par ailleurs, les évêques rassurent qu'il n'existe aucun problème entre l'Église et les dirigeants des institutions de la République. Monseigneur Marcel Outembi.
Des gouvernants, des politiques, tout comme aussi des religieux, nous n'avons pas de problème. Nous regardons dans la même direction. Même si par le moment, il y a des petits couacs, ça ne manque jamais dans une organisation humaine. L'important, c'est de voir dans la bonne direction et de chercher à recadrer les choses pour aller de l'avant.
Signalons que cet échange entre le chef de l'État et les prélats catholiques s'est déroulé en présence des présidents des deux chambres du Parlement.
Autre nouvelle, les activités socio-économiques ont tourné au ralenti hier vendredi dans la matinée à Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. La société civile avait appelé les habitants de la commune à observer une journée sans activité et de réflexion pour décrier la multiplication des attaques armées ayant occasionné la mort de plusieurs personnes dans la cité. Suivez les explications d'André Kiteng.
La plupart des maisons de commerce sont restées fermées toute la matinée dans la cité d'Oicha. Selon plusieurs sources concordantes sur place, on pouvait observer néanmoins une circulation timide des conducteurs de mototaxis à travers les grandes artères de la cité. Un début timide des activités commerciales dans les petits marchés a commencé à être observé aux environs de 10 heures. Mais les élèves se sont rendus dans leurs écoles où les cours se sont déroulés normalement. À en croire Isaac Kavalani, président de la société civile d'Oicha, si le mot d'ordre n'a pas été totalement suivi par les opérateurs économiques et certains habitants, c'est à cause d'éventuelles représailles dont ils pourraient faire l'objet de la part des autorités militaires. D'autres sources indiquent cependant que certaines maisons de commerce ont réouvert leurs portes en début d'après-midi. Dans une déclaration rendue publique hier jeudi, la société civile d'Oicha avait condamné des cas d'insécurité, décrétant à l'occasion une journée sans activité et de réflexion. Cette annonce faisait suite à l'enlèvement par des hommes armés non encore identifiés de 9 personnes d'une même famille et au meurtre d'un enseignant dans la nuit du mardi au mercredi dernier. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Parlant toujours de la sécurité, la situation alors sécuritaire dans la chefferie de Bachou ne permet pas aux prestataires de santé de travailler correctement. À en croire l'intersyndicale de la santé dans le Grand Nord Kivu, l'insécurité a même contraint certaines formations médicales de cette partie du territoire de Beni à fermer. À l'occasion de la journée internationale des aides-soignants célébrée le 26 novembre de chaque année, les professionnels de la santé dans cette partie du Nord Kivu appellent le gouvernement à y imposer la paix. Vake Okelo, coordonnateur de l'intersyndicale de la santé dans la partie Grand Nord, explique au micro de Florida Karambou.
Oui, il faut dire que le contexte est très compliqué parce que les soignants sont à des bandades, la population a des bandades. Les quelques centres de santé qui existent encore dans la région, parce que nombreux ont déjà fermé, et ceux qui essaient de maintenir, ils peuvent travailler la journée, toujours sous stress, pour fermer les soirs. Donc la nuit, on ne trouve pas un agent dans la structure. Mais aussi, quand les centres de santé ont fermé, on n'a pas du boulot. Ça veut dire que les soignants, aujourd'hui, ils mènent une vie pénible. Mais alors, aujourd'hui, du moment que la structure n'est pas fonctionnel, ça signifie qu'on n'attend rien à la fin du mois. Alors qu'on est en situation de guerre, c'est un chômage forcé. Dans les poules de Butembo, on pouvait avoir même 5000 agents dans la partie Grand Nord de la province. Et difficilement 60% reçoivent la prime de risque. Nous demandons au gouvernement de fournir un effort parce que quand on travaille dans des conditions compliquées et qu'on ne reçoit pas quelque chose pour être encouragé, c'est vraiment comme si on est abandonné à ce triste sort.
Autre nouvelle en Ituri, plus de 87 cas de tuberculose ont été enregistrés dans les milieux carcéraux au cours de ces derniers trimestres. Ce chiffre a été révélé ce vendredi par la coordination provinciale du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose. C'était au cours d'une réunion de plaidoyer pour la mobilisation des fonds en vue d'éradiquer cette maladie qui frappe surtout la prison centrale de Mombasa. Selon le vice-gouverneur, la lutte contre cette pathologie nécessite la contribution de tout le monde. Ezekiel Mouzali a été à cette réunion, il nous propose ce reportage.
Le problème des prises en charge des maladies de la lèpre et de la tuberculose constitue un défi pour la santé publique en Ituri. Les principaux foyers restent les milieux carcéraux qui sont à ces jours surpeuplés. La prison centrale de Mombasa, qui présente un taux élevé de prévalence de cette maladie, en est un exemple. D'après le coordonnateur provincial du programme de lutte contre la lèpre et la tuberculose, cette situation est due à l'absence d'un dispositif d'isolement des malades. Justin Moukonkole.
Le problème avec cette prison, c'est que tous les malades tuberculeux, l'incidence qui est de 76 pour 1000 détenus. Nous voudrons que nous puissions arriver à mobiliser les ressources.
De son côté, le vice-gouverneur des provinces appelle à la solidarité provinciale et à l'humanisme pour combattre ces fléaux. Selon lui, l'Ituri dispose de tous les moyens nécessaires pour réduire les risques de contamination. Benjamin Alongaboni.
Ituri a toutes les potentialités de bouter dehors tout ce que nous voyons comme Covid et consorts. Humanisons quand même nos relations interpersonnelles, humanisons nos façons de concevoir et de voir les choses.
Signalons que l'Ituri enregistre chaque année environ 10 000 cas de cette maladie, selon les statistiques avancées par le programme de lutte contre la tuberculose. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Bukavu, 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, la section affaires politiques de la MONUSCO a réuni un groupe de femmes leaders de la Bukavu jeudi pour le lancement dont l'objectif principal reste de sensibiliser à la problématique des violences faites aux femmes dans toute la province, comme nous l'explique ici Michel Chirimwami.
Une des participantes contactées par Radio Okapi a donné son avis sur cette activité. Rosine Kanyonyo Chikuru, présidente d'un parti politique à Bukavu, a dit sa volonté de voir la femme sensibilisée et responsabiliser au cours de la période de 16 jours au micro de votre serviteur.
D'abord, nous devons sensibiliser pour que les femmes puissent adhérer massivement dans nos partis politiques, travailler comme le demande le parti politique, un membre du parti que c'est lui qui marche selon nos règlements de parti politique, et enfin voir les femmes qui sont capables, les femmes qui ont prouvé des capacités de responsabiliser dans des postes pour qu'enfin nous puissions encourager celles-là qui ne sont pas encore venues nous rejoindre dans la politique. Demander à ce que la loi électorale de son article 13 soit amendée, qu'on ne puisse plus dire qu'on peut recevoir la liste s'il n'y a pas une femme.
Pour sa part, Christelle Mapendo Chikwanine, une jeune leader diplômée en sciences sociales, département de paix et transformation des conflits, donne ses recommandations.
En tant que jeune fille, nous sommes plus victimes de conflits, de violences qui traversent premièrement mon pays pendant ces deux décennies et surtout ma province du site Kivu. Alors, Alors, nous, jeunes filles, nous avons un rôle à jouer pour lutter contre tous ces antivaleurs, toutes ces formes de violence.
Bukavu, Michel Tirimami, Radio Kapi.
Entre-temps, Radio Kapi poursuit sa série de reportages dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Aujourd'hui, nous restons au Sud Kivu pour faire un gros plan sur le modèle de guérison pour les victimes du docteur Denis Mukwege, mis en œuvre par l'hôpital et la fondation Panzi. En quoi consiste ce modèle mondialement reconnu et dupliqué dans plusieurs pays? Combien de survivantes de violences sexuelles en ont bénéficié? Avec quel impact? Tentative de réponse avec Cynthia Bachizi Nabizana.
One Stop Center, c'est le modèle de Panzi centré sur tous les besoins des victimes. Il repose sur quatre piliers. Docteur Rukungu Nehema, chargé de la réplication de cette prise en charge holistique à l'hôpital de Panzi.
Au niveau médical, on estimait qu'on avait fait tout ce qu'on devait faire. C'est après qu'on s'est rendu compte que c'était un problème psychologique avec toute la somatisation. La plupart des survivants qui arrivaient avaient des problèmes où on avait tout pillé chez eux. Même le problème psychologique, pour y répondre à 100%, on devait répondre à cette question socio-économique. Après la réinsertion des premières victimes, il y a eu les anciennes qui rentraient pour dire « je connais en fait la personne qui m'avait fait ça ». Et donc, le besoin de justice s'est fait ressentir.
Selon Dr Rukungu, depuis 1999, presque 68 000 survivantes des violences sexuelles ont été prises en charge sur le plan médical et psychosocial. Leur âge varie entre 6 mois et 80 ans. Quid de deux autres piliers?
Sur le plan socio-économique, actuellement, nous comptons 252 mutuelles de solidarité. Nous avons à peu près 811 associations villageoises d'épargne et de crédit. Sur le plan juridique, actuellement, nous avons 24 cliniques juridiques à travers le pays et la création même des groupes pour la masculinité positive.
Cynthia Bachizi, Bukavu, Radio Okapi.
Demain, nous serons en Ituri. Les violences et atteintes aux droits humains se poursuivent dans les provinces sous état de siège aux grandes dames des populations. C'est par ces mots que la voix des sans-voix pour le droit de l'homme condamne les graves violations des droits de l'homme perpétrées dans l'est de la République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse animée ce vendredi à Kinshasa, la VSVS fait savoir qu'elle mène depuis octobre 2021 une campagne de sensibilisation de la population sur l'état de siège et surtout son importance, notamment le rétablissement de la paix et de la sécurité dans l'Est. C'est pourquoi il a recommandé à tous les acteurs politiques et sociaux de se mettre ensemble pour soutenir les militaires engagés au front. On écoute à ce sujet la chargée des programmes à la VSV, Madame Irène Monama, au micro de Jeff Ouré.
La détérioration de la situation des droits humains à l'est de la RD Congo doit pousser toutes les Congolaises et tous les Congolais, ainsi que la communauté internationale et prise de paix et de justice, à réfléchir en profondeur sur les vraies pistes de solutions pour le rétablissement effectif de l'autorité de l'État et de la paix à l'est de la RD Congo. Face à l'absence d'une réelle alternative pour la paix à l'Est, l'état de siège devrait en principe être soutenu par tous les acteurs sociaux et politiques, toutes tendances confondues, ainsi que la population congolaise dans son ensemble. La VSV se demande pourquoi les partis politiques de l'opposition et ceux de l'Union sacrée ne se mettraient pas ensemble comme sous d'autres cieux face à une question d'intérêt national pour mettre fin à l'insécurité et aux violations massives des droits humains à l'est de la RD Congo.
Dans la province de la Tchopo, l'épouse du chef de l'État est arrivée ce vendredi au début de l'après-midi à Kisangani. Denise Nyakeru dit être venue au chef-lieu de la province pour écouter la population de cette entité par rapport à ses préoccupations en vue de trouver des solutions ensemble. C'est en substance l'essentiel de son message qu'elle a adressé aux Boyomès et Boyomais venus nombreux à sa rencontre à l'esplanade de la Poste. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
À l'aéroport international de Bangoka, Denise Nyakeru a été accueillie au bas de la passerelle par le gouverneur de province ad intérim, Maurice Abibou Sakapela, accompagné de son épouse. Bien d'autres personnalités, tant civiles, militaires que policières, étaient également présentes. La population boyomaise n'est pas demeurée en reste. Elle est venue nombreuse accueillir la première dame de la RDC. Dans son bref message à la population à l'esplanade de la Poste, Denise Nyakeru dit être venue à Kisangani pour écouter la population sur les problèmes qu'il essaye afin d'envisager ensemble des solutions.
Solution Snell, naye awa, po a expliquer bino situation, ça va aller. Po kiti sa mitema.
Pour sa part, le gouverneur de province, Maurice Abibou Sakapela, considère son note comme une courroie de transmission des préoccupations de la population au gouvernement, avec en tête le chef de l'État.
Vous savez que nous avons un problème de l'électricité qui se pose au niveau de la ville depuis 4 mois. La réhabilitation de la voirie urbaine, les routes de dessert agricoles, et pourquoi pas l'équipement des centres de santé, des hôpitaux de référence et même les écoles.
Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Alors, bientôt, c'est le mois de décembre, le dernier mois de l'année, de cette année 2021. Et Kinshasa commence peu à peu à se préparer pour les festivités de fin d'année. Les décorations et autres jeux de lumière sont déjà visibles, surtout de nuit, sur certaines artères de la capitale. C'est le cas tout le long du boulevard du 30 juin, sur le boulevard Lumumba et des places comme Kitambo Magasin ou à la place de la gare. Notre reporter Babel Pongo Massimango a fait le tour.
Des luminaires en forme de papillon, des cloches sont déjà visibles sur les poteaux d'éclairage public le long du boulevard du 30 juin ou encore Lumumba. À Kitambo Magasin ou à la place de la gare, des décorations lumineuses en forme de plantes, d'animaux et de sapins égayent également le lieu de leur lumière blanche, jaune, rouge ou verte. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila.
Toutes les artères principales seront éclairées. Pour la première fois en 2020, nous avons travaillé avec deux conteneurs seulement. Et cette fois-ci, on va travailler avec sept conteneurs qui sont déjà sur place ici à Bissau. On va commencer donc à poser les illuminations ainsi que les guirlandes pour embellir et préparer notre Noël à la façon congolaise.
Les Kinois saluent l'initiative, mais certains souhaiteraient qu'au lieu de la décoration temporaire et rapidement périssable, l'argent soit utilisé dans des projets plus durables.
En fait, c'est maintenant que je remarque qu'il y a des décorations. Déjà, je ne savais même pas qu'on avait décoré. Peut-être la nuit, hein, c'est un peu plus visible, mais je trouve que c'est quand même agréable, c'est joli. Banzele Zate, à la place, il y a Kogasfiembo, on a la décoration, ou à la fin de l'année, au début de l'année, on va tout enlever et ça ne sert à rien.
Ces décorations font déjà la joie de nombreux Kinois qui aiment passer du temps et prendre des photos souvenirs dans les lieux publics ainsi parés.
Actualité internationale.
Au Burkina Faso, malgré la suspension de l'internet mobile et l'interdiction de manifester, l'opposition et une partie de la société civile ont maintenu vendredi leur appel à marcher ce samedi pour la paix et contre la politique sécuritaire du gouvernement. Dans la nuit de jeudi, le président Roch Marc Christian Kabore s'est adressé à la nation. Il a annoncé plusieurs mesures dont un remaniement ministériel et demandé aux Burkinabés plus de solidarité au nom de la cohésion sociale. Malgré ces paroles, certains ont annoncé vouloir braver l'interdiction de manifester ce samedi.
L'invité.
Le coordonnateur de la Ligue de la Zone Afrique pour le droit des enfants et élèves, l'ISADEL, le Kassai Central, est notre invité dans cette édition. Dans le cadre du projet Fonds humanitaire, sa structure a répertorié plus ou moins 624 cas de viol sur mineurs dans trois zones de santé en province. Ce travail a été fait dans le cadre du projet Fonds humanitaire, explique Jean-Malice Mungala. Il s'entretient ici avec François Kadima. Suivez.
Monsieur Jean-Malice Lungala, bonjour.
Bonjour.
Après un travail fait avec l'appui du Fonds humanitaire, comment se présente la situation ici au Kassai Central par rapport aux abus envers les enfants?
En rapport avec les abus envers les enfants au Kassai Central, la situation est vraiment dramatique, puisque dans le cadre des fonds humanitaires, les projets qui avaient appuyé la Lisadel, nous avions pour du moins trois zones de santé, notamment la zone de santé de Katoka dans la ville de Kananga, la zone de santé de Djibaya à Chimbulu et la zone de santé de Chibala dans l'étoile de Kazumba. Nous avions documenté plus ou moins 1147 cas des abus faits sur les femmes et la jeune fille. Et une fille qui a un rapport avec les enfants, plus ou moins 624 filles ont été abusées sexuellement. Donc vous comprenez que la situation est très dramatique en rapport avec les abus faits sur les enfants.
Alors ce travail a été fait par la Lisadel sur quelle période?
C'est pratiquement toute la période de l'année 2021 qui est en cours, puisque les projets avaient débuté pratiquement fin décembre ou bien fin novembre, mais nous avions débuté les travaux concrètement au mois de janvier, et que toute cette période nous avions travaillé en documentant sur les abus faits sur les femmes et les jeunes filles dans les trois zones de santé dont je venais d'évoquer. Et vous allez comprendre que la plupart des victimes étaient réellement les enfants et surtout les enfants jeunes filles.
Et comment vous avez procédé pour faire ce travail?
Nous avions d'abord au niveau des trois zones de santé, nous avions ouvert ce que nous appelons les CISM, c'est-à-dire les centres intégrés des services multisectoriels, dans lesquels nous avions placé un APS pour accueillir d'abord toute personne qui était victime d'abus sexuels. Et non seulement il y avait seulement un APS, donc un APS avait un assistant psychosocial. Nous avions aussi un juriste dans les bureaux, nous avions aussi un psychologue. Et pour votre information, ces bureaux que nous appelons les CISM étaient installés au sein des structures médicales. Donc pour la zone de santé de Katoka, ces bureaux-là étaient installés dans la structure médicale de Saint-Georges. Pour Chimbulu, c'était dans l'hôpital Saint-François. Et pour Tchibala, c'est l'hôpital de Tchibala. Et que à partir de nos points focaux qui étaient déjà implantés dans tous les territoires, puisque nous les avions aussi formés en amont, actes de prévention, ils avaient fait des messages de sensibilisation. Et toutes les filles ou toutes les femmes qui étaient victimes des abus sexuels pouvaient alors aller dans nos bureaux qui étaient installés au sein des hôpitaux en termes de rapprochement pour ne pas les permettre de faire de longues distances. Et ces filles, une fois violées, et on pouvait alors les amener dans les structures médicales pour assurer les prises en charge médicales. Mais il faut aussi relever que c'était un projet d'une prise en charge holistique. C'est pourquoi nous avions fait d'abord les référencements médicaux, nous faisions l'assistance juridique et judiciaire, nous faisions l'assistance l'accompagnement psychosocial et évidemment aussi la réinsertion. Donc c'est comme ça qu'on procédait.
Oui, les abus envers les enfants, vous avez cité surtout les filles, les bourreaux, les personnes commettent ces actes, vous avez quand même enquêté pour en savoir un peu plus.
D'abord, on commence par la tranche d'âge, la tranche d'âge variait généralement entre 11 ans et 17 ans pour la plupart des jeunes filles. Et le profil des bourreaux, c'était généralement les personnes civiles, des voisins, des gens dans les sources d'eau, comme dans les villages, les enfants partaient puiser de l'eau à la source et trouvaient les hommes civils qui pouvaient les abuser sexuellement. Et d'imaginer, c'était les civils. Et exceptionnellement, nous avions seulement connu, je crois, un seul cas de deux policiers, mais qui étaient d'ailleurs, qui avaient déjà pris fuite pour la zone de santé de Tchibala. Mais la plupart des torts, c'était des civils qui pouvaient être soit les étudiants, soit les élèves, soit des parents.
Alors, après avoir fait ce travail, qu'est-ce qui va suivre?
Ce projet-ci avait une prise en charge holistique. Il y avait aussi les volets juridiques et judiciaires. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cas qui avaient été amenés en justice. Les auteurs avaient été arrêtés, en fait identifiés, arrêtés et ils croupissent dans les deux prisons, dont la prison de Kananga ici, pour la zone de santé de Katoka, et aussi la prison de Chimbulu, puisque les projeteurs se plotaient aussi dans la zone de santé de Dibaya. Et pour d'autres cas, certains cas ont suivi les référencements médicaux, du moins tous les cas avaient suivi les référencements médicaux, les référencements psychologiques, et certains cas ont bénéficié aussi d'une réinsertion socio-économique.
Maître Jean-Malice Lungala, nous vous disons merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.